le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour, Jean-Luc Guédreau avec vous. J'ai le plaisir de vous retrouver sur France Culture pour le service protestant jusqu'à 9h. Avec ce matin, à mes côtés, le pasteur Basile Zouma de l'Église protestante unie de France, qui est aussi secrétaire général du DEFAP. Bonjour, pasteur Zouma.
Bonjour.
Sans détour, le DEFAP, c'est une œuvre protestante donc, mais plus précisément, c'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les choses?
Le DEFAP est un service protestant. Quand on arrive devant la maison de la mission dans le 14e, c'est intitulé DEFAP, service protestant de mission. Donc, qui est une association qui a été fondée par trois familles d'églises en France, à savoir l'Église protestante unie de France, l'UEPAL, qui est l'Union des Églises protestantes d'Alsace-Lorraine, et l'UNEPREF, l'Union nationale des Églises protestantes réformées évangéliques de France. Donc ce sont ces trois familles-là qui ont fondé, depuis 1822, cette association qui, initialement, s'appelait la Société des Missions évangéliques de Paris. En 1971, cette association première a donné deux associations filles, à savoir le DEFAP, et puis la CEVA, qui est ce qu'on appelle la communauté d'églises en mission, qui regroupe une sorte de famille, une communauté large d'églises qui sont dorénavant constituées en fait des anciennes églises issues de la mission, qui sont devenues autonomes et indépendantes. D'accord. Donc ce sont les églises missionnaires et les églises qui sont nées de la mission qui se sont mis ensemble pour faire cette communauté d'églises. Et dorénavant, ce n'est plus la mission qui partait du nord vers le sud, mais c'est le sud et le nord ensemble dans la même mission. Et le DEFAP est un peu l'instrument dans la main de ces trois églises-là pour participer de cette vie communautaire, dans à la fois sa dimension de créer une vie communautaire large, mais aussi d'être un instrument technique d'accompagnement pour les projets et pour un certain nombre de formations.
Oui, j'allais vous poser la question, quelle place occupe concrètement justement le DEFAP dans l'Église et puis aussi par extension dans le corps associatif national?
Le DEFAP fait partie en tout cas en France du large corps des associations. Par exemple, on fait partie de Coordination Sud, qui est aussi une famille d'associations qui se retrouvent pour des projets communs, dans des projets de plaidoyer aussi auprès des instances publiques, et aussi de levée de fonds et d'accompagnement des associations dans leurs actions, que ce soit ici ou ailleurs. Au sein de l'Église, effectivement, le DEFAP a pour mission de stimuler pour que l'Église ne perde pas ce que je dirais sa responsabilité à la fois missionnaire et humanitaire. Voilà, quelque part, on est là pour rappeler aux Églises que la bonne nouvelle se décline. Et cette image que je prends régulièrement, c'est celle que disait Gandhi, qui disait que quand on est en face de quelqu'un qui a faim, quand on est en face d'un affamé, Dieu, premièrement, ne peut être que nourriture. Donc il me semble que parler des bienfaits d'une parole bonne nouvelle, il faudrait quand même qu'on tienne compte aussi de la situation de la personne à qui on parle, qu'elle soit malade, qu'elle ait faim, qu'elle soit dans un dénuement social. Nous avons quand même la responsabilité évangélique d'ailleurs de venir en aide et au secours en fonction bien sûr des moyens qu'on a, sans jamais se situer en position de surplomb. On est plutôt dans une logique de partenariat, de projet construit ensemble,
d'accompagnement
et de partage.
Vous êtes secrétaire général depuis un peu plus d'un an, il me semble. Une année compliquée avec tout ce qui s'est passé de différentes façons, notamment les difficultés liées au voyage, avec le confinement récemment encore plus. Comment vivez-vous ces temps, vous, personnellement?
Cette situation est assez inédite. Je suis arrivé au DEFAP pour le 1er juillet 2019 et puis j'ai successivement subi, je dirais, à la fois les crises en France,
ouais,
à savoir
crise sociale,
la crise sociale, gilets jaunes, grèves, et puis effectivement, ça se rajoute la crise sanitaire Covid. Dans une association comme la nôtre qui est portée vers l'international et que les frontières sont fermées, qu'on peut plus se déplacer, qu'on peut plus suivre sur le terrain, en tout cas, nos partenaires, ça fait que ça a quand même inhibé un certain nombre de nos actions. Mais on peut être reconnaissant aussi du fait que le cœur du métier du DFAP, c'est d'abord la relation et les actions viennent nourrir la relation. Donc, on a quand même...
La relation demeure.
La relation demeure et on est reconnaissant à la technique de nous permettre aujourd'hui encore de garder une relation active, voilà. De prendre des informations, d'échanger par téléphone, Skype, Zoom, voilà. Tout cette avancée technologique nous aide en tout cas à pallier l'absence physique sur le terrain, même si je pense que cette absence ne peut nullement être remplacée par... cette facilité technique qui est mise à notre disposition.
Voilà. L'actualité du DFAP, c'est quoi, donc, là, dans les mois qui viennent?
Dans les mois qui viennent, il faut dire qu'on essaie de voir les possibilités qui existent de voyager. Donc, on est en train de voir les possibilités réelles de pouvoir rencontrer sur le terrain nos partenaires.
Peut-être préciser dans quel pays, justement, vous intervenez?
On intervient majoritairement en Afrique, au Cameroun. On intervient aussi dans des pays comme Haïti. On a suivi pendant un certain nombre d'années la crise qui se vivait aussi sur place. Mmh. On est au Congo, RDC, par exemple, où aussi on est en lien avec des universités. On a des lieux comme ça, on est en lien aussi avec le Maroc, avec, vous savez, la question migratoire aussi qui est extrêmement prégnante sur ce site, on y est aussi. On accompagne aussi des universités de formation. C'est une façon pour nous aussi de développer en tout cas la capacité formatrice de ces universités pour que ces étudiants n'aient pas forcément besoin de quitter leur pays, pouvoir trouver sur place des ressources suffisantes pour se former et d'être des cadres utiles à leur propre pays.
Et vous subvenez aux besoins, comment ça se passe?
On fait partie des œuvres de la Fédération protestante de France qui est soutenue par ces trois familles d'églises que j'ai citées au départ, financièrement, majoritairement. On a une subvention publique, comme on a aussi sur le terrain des services civiques et des services volontaires. Volontaires de solidarité internationale. Donc on a aussi ces fonds-là qui nous permettent aussi de mener nos activités dans ce domaine.
Et les gens peuvent vous soutenir aussi individuellement?
On a individuellement aussi la possibilité des gens qui veulent soutenir une œuvre ici ou là.
J'imagine qu'on peut tout retrouver sur Internet,
sur
le site du DFAP.
Sur le site du DFAP, on a un certain nombre d'informations, Facebook DFAP aussi.
Okay.
Donc on a le site qui est Saint-Denis Boulevard Arago, qui est agréable à visiter pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de venir.
On peut même y loger, je crois.
On peut même y loger, effectivement.
Est-ce qu'il y a des événements marquants pour 2021 que vous voulez peut-être souligner?
Pour 2021, il y a deux événements qui me semblent importants à signaler. On aura un forum, parce que la vraie question qui se pose aujourd'hui pour nos trois églises, c'est comment peut se décliner la mission aujourd'hui. Quand on dit mission d'église, mission autour de la bonne nouvelle, qu'est-ce que cela représente aujourd'hui? Dans ce forum, on avait voulu être un lieu de réflexion avec les églises pour pouvoir enrichir la nouvelle façon d'être en mission avec toutes les difficultés, les pièges que cela peut
susciter.
Susciter. Et en 2021, le DFA va avoir 50 ans.
Bon anniversaire.
Merci. Donc, on voudrait probablement, au printemps l'année prochaine, marquer le coup.
Oui, organiser des festivités autour de tout ça.
Organiser des festivités, des célébrations. Parce qu'il ne s'agit pas, comme on dit, on ne veut pas commémorer un passé glorieux. Ce n'est pas notre ambition. Mais c'est simplement se nourrir d'une histoire.
Et l'occasion de se projeter, peut-être.
L'occasion de
faire parler aussi de tout ce que vous faites.
Tout à fait, de se projeter, de parler de ce qu'on fait. Et puis de rappeler aussi qu'on fait partie, ce que j'appelle grosso modo, on fait partie de l'international missionnaire et humanitaire protestant. On n'est pas le seul dans ce domaine-là.
Bien sûr.
Donc on est dans une large collaboration pour apporter un peu du mieux vivre dans la société dans laquelle on vit.
Merci beaucoup, pasteur Basile Zouma, pour ces quelques mots qui nous permettent à la fois de mieux connaître le DFAP et puis également votre ministère personnel. Alors maintenant, je vous laisse la place pour nous conduire dans un temps davantage cultuel sur France Culture. C'est le service protestant, cette émission qui vous est proposée chaque dimanche matin par la Fédération protestante de France.
Voici encore un matin. Dans un mouvement régulier, la Terre, une fois de plus, présente l'un après l'autre ses continents aux rayons du soleil. Mais si le soleil est pour tout le monde n'a pas la même place au soleil. Tout le monde n'a pas le même matin. J'espère que le vôtre succède à une nuit paisible et reposante qui vous met dans des dispositions positives pour une nouvelle journée riche d'une vie d'espérance et de partage. Car le matin n'est rien pour les esprits qui restent dans la nuit des pensées tristes. Il ne suffit pas seulement que le soleil se lève, il faudrait que se lève aussi une pensée, une prière, un geste. Dieu nous en accorde la possibilité, car c'est lui qui, en Jésus, ce matin, comme tous les matins, nous accueille et nous met sur le chemin de la vie, sur le chemin de cette journée. Sa grâce nous est encore et toujours donnée. Amen.
Une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 22, les versets 15 à 21. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis, ou non, de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite ? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, » lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
Devons-nous payer les impôts ? Nous n'aurions même pas l'idée de poser la question. On sait bien qu'il faut payer, et qu'on a même intérêt à le faire, même s'ils paraissent lourds, même si l'on a le sentiment que certains ne payent pas toujours à hauteur de leurs possibilités financières et que d'autres semblent donner proportionnellement trop. Parler d'impôts me fait penser à un sketch de l'humoriste Raymond Devos dans lequel il dit être allé voir un prêtre exorciste pour le délivrer de son percepteur. Le prêtre lui répond que s'il s'agit des démons, il peut essayer quelque chose. Mais contre le pouvoir de l'argent, il ne pouvait pas grand-chose. « Et que faut-il faire ?» lui demande Raymond Devos. Et le prêtre de répondre « Payez, payez, payez pour nous. Payez pour. » Vous avez certainement entendu dans ce « payez pour » « priez pour nous. » Il faut bien faire fonctionner l'État. Tous les rouages de l'administration et la solidarité par la redistribution. De toute manière, si on ne payait pas, on serait à l'amende, la somme à débourser serait encore plus élevée. Les Judéens du temps de Jésus avaient compris le risque de ne pas payer. D'ailleurs, dans un traité juif, Pessahim 112b, on trouve la sentence suivante. « Ne cherche pas à éluder le tribut, de peur qu'on ne le découvre et qu'on ne te prenne tout ce que tu as. » Les rabbins déjà entre eux discutaient de la question pour savoir s'il est permis d'échapper à l'impôt à César. La question posée à Jésus n'est donc pas nouvelle. La question n'est certes pas nouvelle, mais légitime. Les charges, payages, douanes, taxes sur la succession et sur les ventes étaient lourdes pour les citoyens de l'Empire et constituaient un véritable joug, une marque de sujétion par excellence à l'empereur. De ce fait, certains judéens, tels les Zélotes, haïssaient le tribut et faisaient de son refus un devoir religieux. La connaissance de ce contexte politique et religieux dans lequel vivait Jésus permet de comprendre le piège qui lui est tendu. Est-il permis, oui ou non, de payer le tribut à César ? À cette question, les zélotes, qui sont des résistants à l'occupation romaine, Pierre, disciple de Jésus, en était un, répondaient par la violence. Mais d'autres, les sadducéens ou les hérodiens, par leur proximité avec le pouvoir en place, y étaient parfaitement favorables.
Sur France Culture, dans le service protestant, c'est le pasteur Basile Zuma qui nous parle ce matin autour de ce thème « Dieu et César, religion et politique ».
Comment interpréter la réponse de Jésus ? Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut d'abord tenir compte de ce qui précède. Jésus demande à ses interlocuteurs de lui montrer une pièce de monnaie romaine. Il les prend au piège de leur propre jeu. Ils portent sur eux, ou du moins, savent où la trouver, une monnaie romaine. C'est la preuve d'une forme de participation à ce pouvoir incarné dans une pièce portant, pour la période, probablement l'effigie de César Tibère sur une face et l'inscription au fils du divin Auguste de l'autre. Les piégeurs sont pris au piège, le texte aurait pu s'arrêter là. Jésus vient de prendre ses interlocuteurs pharisiens et hérodiens à leur propre jeu et en flagrant délit de collaboration avec les symboles de l'occupant. L'occasion est bonne, non pour ridiculiser l'adversaire, mais pour donner un enseignement sur la vie du croyant dans ce monde-là et son rapport à la politique. Pharisiens et hérodiens qui ne s'aimaient pas du tout arrivent tout de même à se mettre d'accord pour piéger Jésus. Il y a dans cette question commune, cet accord de circonstances, une confusion entre questions religieuses par les pharisiens et politiques les hérodiens que Jésus va devoir éclaircir. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu.
Alors Basile Zuma, quel est donc cet ou ces éclairages que vous nous proposez pour chercher à mieux comprendre cette forme de dualité ?
Le lien entre Dieu et César est à la fois une distinction et une articulation, mais non pas une séparation absolue. L'humain est concerné par les deux, et Dieu est concerné par l'humain qu'il a créé. La société ou la politique ne sont pas en dehors de Dieu. Quand nous nous engageons dans ce domaine-là, il nous suit, il nous précède. Le monde n'est plus tabou, il appartient au Seigneur. Nous pouvons y affirmer sa souveraineté, qui est celle de la vie et de la paix. Nous pouvons travailler à la faire respecter dans la mesure du possible. Nous pouvons à la fois y rendre à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Thank you.
Pour nous diriger vers la fin de ce service protestant, je vous propose, Pasteur Zuma, de nous conduire maintenant dans une prière et puis de nous offrir également une parole de bénédiction.
Seigneur, nous te prions pour ce temps avec ses opportunités et ses dangers. Ce qu'il sera, en bien ou en mal, dépend aussi de nous. Nous te prions pour apprendre à juger sainement ce monde agité et compliqué. Que nous rencontrions des hommes et des femmes au regard lucide et à l'esprit ouvert, et que nous nous aidions à discerner ce qui est bon et ce qui est valable. Nous te prions pour ne pas nous décourager quand tout change si lentement, que nous ne soyons pas trop vite résignés à l'inévitable, mais que nous laissions toujours le Dieu des promesses nous réveiller, nous ranimer. Nous te prions pour ne pas accroître les tensions de ce monde et pour ne pas accuser les oppositions, mais que nous tâchions de nous comprendre et que nous apprenions à vivre dans la diversité des opinions et des comportements. Dieu, en ta main repose les temps, rends-nous plus attentifs à tout ce qui se passe de nos jours, donne-nous confiance, sagesse, courage, rends-nous prêts à toute œuvre bonne par le Christ notre Seigneur. La grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin. La grâce et la paix sont ces graines fragiles qui rendent fertiles nos journées. La grâce et la paix sont ces moissons promises qui donnent sens à nos travaux. La grâce et la paix sont ces épis de lumière qui éclaire nos nuits et garde notre repos. La grâce et la paix nous sont données à nous qui sommes en chemin.
Le service protestant est maintenant terminé. Il vous est proposé chaque dimanche sur France Culture de 8h30 à 9h par la Fédération protestante de France. Il vous est présenté par Jean-Luc Gadreau et réalisé par Anne-Laure Chanel avec Philippe Mercher à la technique. Notre invité ce matin était le pasteur Basile Zuma de l'Église protestante unie de France, également secrétaire général du DEFAP, le service protestant de mission. Pour réécouter cette émission, mais aussi retrouver le texte du jour, rendez-vous sur le site franceculture.fr ou celui de protestantaupluriel.org. Notre adresse postale pour toute réaction ou question, service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris ou l'adresse mail communication@fédérationprotestante.org. Sur France Culture, vous retrouvez maintenant les informations suivies de l'émission Talmudique présentée par Marc-Alain Ouaknin. Et pour ma part, je vous souhaite un très bon dimanche.